Rudolf Steiner, Mythe et mystère égyptien. 9e conférence faite à Leipzig le 11 septembre 1908. Dans nos dernières considérations, nous avons évoqué différentes étapes de l'évolution de l'humanité. J'ai essayé de montrer quel fut le développement de l'homme entre le moment où le Soleil a quitté la Terre et celui où la Lune s'en est séparée à son tour. Il faut encore ajouter un certain nombre d'éléments à ces faits, que nous pouvons considérer comme appartenant à l'anatomie et à la physiologie occulte. Mais afin de saisir cela de façon juste, nous allons éclairer aujourd'hui quelques autres faits de la vie spirituelle, car nous ne devons pas oublier notre intention première, qui est de montrer le rapport entre les mythes et les mystères égyptiens, entre la période de civilisation égyptienne en général, et notre époque. C'est pourquoi il est nécessaire tout d'abord de comprendre parfaitement selon quels principes l'évolution se poursuit à travers les différentes époques. Revenons encore une fois à l'action des esprits du Soleil et de la Lune, c'est-à-dire à celle des forces d'Isis et d'Osiris, dont l'action conjuguée a édifié le corps de l'homme. Ceci s'est passé en des temps très reculés, alors que notre Terre s'était à peine condensée et quand sa masse encore liquide se déroulait la plus grande partie des événements que nous avons décrits. L'être humain avait atteint à cette époque un degré d'évolution qu'il nous faut comprendre aussi clairement que possible, afin que nous puissions nous représenter sous quel aspect le progrès de l'homme apparaissait à la vision occulte. J'ai déjà décrit comment les parties inférieures du corps humain, les pieds, les mollets, les genoux, etc., se sont pour ainsi dire physiquement formées dès le moment où le Soleil se prépara à quitter la Terre. Rappelez-vous bien que nous avons toujours dit, c'est ainsi qu'un œil humain aurait pu voir les choses, s'il y en avait eu à cette époque. Mais l'œil humain n'existait pas encore. Il s'est formé beaucoup plus tard. Pendant que l'homme se trouvait au sein de la masse terrestre liquide, il n'avait pour tout organe de perception que ce que nous avons décrit en lui donnant le nom de glande pinéale. La perception avec l'œil physique ne commença que lorsque le corps humain fut formé jusqu'en son milieu, jusqu'aux hanches. On peut donc dire que la partie inférieure de la forme humaine existait déjà, mais qu'aucun œil n'était là pour la voir. L'homme ne pouvait pas se regarder lui-même à cette époque. Cette faculté ne lui fut accordée qu'au moment où le corps humain en formation depuis le bas vers le haut eut dépassé le niveau des hanches. L'œil humain ne s'ouvrit que lorsque le cycle de la formation de son corps atteignit le signe de la balance. Il commença à se voir comme dans un brouillard. C'est donc seulement à partir de là qu'il commença à voir les objets. Jusqu'à ce moment de la formation des hanches, toute perception humaine était une vision clairvoyante, une perception astrale éthérique. L'homme ne pouvait pas percevoir le physique, car sa conscience était encore crépusculaire, clairvoyante, d'une clairvoyance de rêve. L'homme entra alors dans l'état de conscience où alternent le sommeil et la veille. Pendant la veille, il voyait obscurément les choses physiques, mais comme enveloppé de brouillard et entouré d'une aura lumineuse. Pendant le sommeil, il s'élevait vers les mondes spirituels, vers les êtres divins. Son état de conscience se partageait entre la conscience clairvoyante qui s'affaiblissait de plus en plus et la conscience diurne, la conscience des objets, celle qui est devenue prépondérante aujourd'hui, qui s'éclairait, s'affermissait, l'emportait sur l'autre. La faculté de perception clairvoyante et la vision des dieux pendant le sommeil se perdirent peu à peu. Parallèlement, augmenter la clarté de la conscience diurne et en même temps la conscience de soi, le sentiment du je, la perception du je. À l'époque lémurienne, qui englobe tout le processus de la séparation de la Lune et de la Terre, avant, pendant et après, L'homme était doué d'une conscience clairvoyante et ignorait encore ce que nous appelons aujourd'hui la mort. Car lorsqu'il sortait de son corps physique, soit par le sommeil, soit par la mort, il ne perdait pas conscience. Au contraire, il se sentait doué d'une conscience plus élevée, plus spirituelle en un certain sens, que lorsqu'il séjournait dans son corps physique. Autrefois, l'homme ne se disait jamais je meurs maintenant ou je perds conscience. Cela n'existait pas. L'homme ne s'appuyait pas encore sur la conscience de soi. Il se sentait immortel au sein de la divinité, et tous ces faits que nous décrivons actuellement étaient pour lui évidents. Imaginons la scène suivante. Nous allons nous coucher. Le corps astral sort du corps physique. Ce jour-là, c'est la pleine lune. Le corps physique et le corps éthérique sont étendus dans le lit. Le corps astral flotte au-dessus d'eux, sous les rayons de la pleine lune. Le clairvoyant ne perçoit pas ici simplement un nuage astral, il voit en réalité des courants passer du corps astral dans le corps physique. Et ces courants sont les forces qui, pendant la nuit, dissipent la fatigue, renouvellent les forces dépensées pendant le jour et préparent le corps à se réveiller frais et dispos. En même temps, on peut voir des courants spirituels émaner de la lune, courants pénétrés de forces astrales. On peut voir émaner de la lune des influences spirituelles qui pénètrent le corps astral, le fortifient et agissent sur le travail qu'il accomplit dans le corps physique. Supposons maintenant que nous soyons des hommes de l'époque lémurienne. Notre corps astral aurait alors perçu ces courants de forces spirituelles. Il aurait regardé vers le haut et dit « C'est Osiris qui me fortifie, qui travaille en moi. Je vois sa force me traverser. » Et nous nous serions sentis pendant la nuit dans le sein d'Osiris. Nous aurions, pour ainsi dire, vécu avec notre je en Osiris. Nous aurions eu ce sentiment. Osiris et moi sommes un. Si nous avions pu exprimer autrefois par des paroles ce que nous ressentions, nous aurions dit à peu près, en réintégrant notre corps physique, il faut que je redescende maintenant dans le corps physique qui m'attend en bas. C'est le moment de me replonger dans mon être inférieur. Et nous aurions attendu avec joie le moment de quitter à nouveau le corps physique, de remonter et de pouvoir reposer à nouveau dans le sein d'Osiris ou d'Isis, d'unir à nouveau notre je avec Osiris. À mesure que le corps physique se développait, que ses différentes parties venaient s'ajouter à celles qui étaient déjà formées en bas, à mesure que l'homme, après le développement de ses membres supérieurs, devenait capable de voir physiquement, de percevoir les choses qui l'entouraient dans le monde physique, le temps qu'il devait passer plongé dans son corps augmentait, et il fut pris d'un intérêt toujours croissant pour le monde physique. La conscience du monde spirituel s'assombrit à mesure que s'affirmait celle dont il était doué dans son corps physique, et le monde spirituel lui devint de plus en plus étranger. La vie du plan physique devint prépondérante et la conscience des phases qui se déroulent entre la mort et une nouvelle naissance alla toujours en s'obscurcissant. Pendant l'époque atlantéenne, l'homme perdit peu à peu le sentiment de sa patrie spirituelle, et, après le grand cataclysme, la majorité des êtres humains avaient déjà perdu complètement le don naturel de percevoir pendant la nuit le monde spirituel. En revanche, ils avaient acquis la faculté de voir toujours plus nettement pendant le jour les objets extérieurs. Peu à peu, ces objets leur apparaissaient avec des contours de plus en plus nets. Nous avons déjà vu que le don de clairvoyance avait été conservé aux êtres qui ne suivirent pas le développement des civilisations post-atlantéennes. On trouve de ces retardataires jusqu'au moment de la fondation du christianisme, et même aujourd'hui, il existe encore, bien que très isolément, des individus chez lesquels s'est conservé ce don naturel de clairvoyance. Clairvoyance d'ailleurs toute différente de celle que l'on acquiert par la formation ésotérique. Sur l'Atlantide, la nuit s'obscurcit donc de plus en plus. pendant que la conscience diurne devint de plus en plus claire. Et il n'y a plus de conscience nocturne pour les hommes de la première civilisation post-atlantéenne, que nous avons tenté de caractériser dans toute sa grandeur avec la spiritualité apportée par les saints rishis, ainsi que nous l'avons vu dans les exposés précédents, et qu'il nous faut décrire à présent encore d'un autre côté. Pénétrons dans l'âme des disciples des saints rishis, dans les âmes des hommes de la civilisation indienne en général, à l'époque qui suivit immédiatement la disparition des traces des grandes catastrophes atlantéennes dues aux eaux. Nous voyons y palpiter encore une sorte de souvenir, souvenir du monde d'autrefois, ce monde où l'homme avait vu, avait connu les dieux édificateurs de son corps, tels qu'Isis et Osiris. Ce monde, ce sein de la divinité, aussi réel que l'est pour nous le monde physique aujourd'hui, l'homme en est exclu désormais. Le souvenir en traversait encore l'âme des Indiens auxquels les rishis pouvaient encore transmettre au moins ce qui fut autrefois, car ils savaient que les rishis et leurs disciples avaient la vision du monde spirituel. Mais ils savaient aussi que le temps est passé où l'Indien normal pouvait également avoir cette vision. Le souvenir douloureux de l'ancienne et véritable patrie traversait l'âme de cet ancien Indien lorsqu'il se voyait transporté dans le monde physique, qui n'est que l'écorce extérieure du monde spirituel. Et un grand désir lui venait de s'évader hors de ce monde extérieur. Ses sentiments se traduisaient ainsi. Les montagnes, les vallées, les nuages, le ciel étoilé même ne sont pas la réalité. Tout cela n'est qu'un voile, un visage de l'être véritable. Ce qui est vrai, c'est ce qui est derrière. Ce sont les dieux et la véritable forme de l'homme. C'est ce que nous ne pouvons plus voir. Ce que nous voyons n'est pas vrai. C'est la Maya, l'illusion. Ce qui est vrai est voilé. Et ce sentiment que l'homme a été enfanté par la vérité, que sa patrie est dans le monde spirituel, devint de plus en plus vivant. Le sensible n'est pas la vérité, c'est la Maya. Le monde physique des sens a plongé l'homme dans la nuit. Chez un être qui ressent avec tant de force l'opposition entre la réalité du spirituel et l'illusion du physique, le sentiment religieux aboutit à un amoindrissement de l'intérêt qu'il éprouve pour le monde physique. Son esprit se tourne toujours plus vers ce que contemplent les initiés et dont les rishis donnent témoignage. L'Indien éprouvait le désir ardent d'échapper à cette existence si dure, qui n'était pour lui qu'une illusion. Car pour lui, la vérité n'était pas ce que percevaient les sens. Il sentait qu'elle se tenait derrière. La première civilisation post-atlantéenne ne voua qu'un intérêt restreint à tout ce qui se passait sur le plan physique extérieur. Les choses se présentent différemment pendant la deuxième civilisation, celle des Perses, d'où est issu Zarathoustra, le grand disciple de Manu. Si nous voulons définir brièvement le caractère de la civilisation perse par rapport à celle de l'Inde, nous pouvons dire que pour l'homme de l'époque persane, l'état physique n'est plus seulement l'œuvre d'une fatalité. Il y voit le moyen de réaliser une mission. Certes, son regard sait encore trouver les régions lumineuses de l'esprit. Il s'élève encore dans les mondes spirituels, mais il retourne vers le physique. Et devant son âme s'élève l'image d'un monde partagé entre les forces de la lumière et les puissances de l'obscurité. Le monde physique est devenu pour lui un champ de travail. Il se dit, il existe une puissance lumineuse, la bonne divinité, Ahura Mazda, et il existe des forces obscures que dirige Ahriman. C'est d'Ahura Mazda que vient le salut de l'homme. C'est Ahriman qui nous a donné le monde physique. Il faut que nous métamorphosions ce monde qui nous vient d'Ahriman, que nous nous unissions au dieu de lumière pour vaincre dans la matière le dieu mauvais, Ahriman. Pour cela, il faut que nous transformions la terre, que nous devenions capables d'agir sur elle. En vainquant Ahriman, nous faisons de la terre un instrument d'évolution vers le bien. Les Perses firent le premier pas vers cette métamorphose libératrice de la Terre, dans l'espoir qu'un jour elle deviendra une planète bonne, libérée, et que se réaliserait la souveraineté magnifique d'Ahura Mazda, de l'être suprême. Tels étaient les sentiments d'un Perse qui n'élevait plus son regard vers les hauteurs sublimes de l'esprit comme l'Indien, mais qui s'établissait fermement dans le monde physique. L'Indien, qui sentait le sol ferme se dérober sous ses pieds, ne pensait pas encore ainsi. La conquête du plan physique se poursuit à travers la troisième civilisation, celle de l'Égypte, de Babylone, de la Syrie, de la Chaldée. On n'y rencontre plus que des traces infimes de l'ancien sentiment de répulsion qui faisait ressentir le monde physique comme une Maya. Les Chaldéens étudient le ciel étoilé, et l'éclat lumineux des astres n'est plus Maya pour eux. Les étoiles sont les signes d'un langage que les dieux ont imprimé dans le plan physique. Par la voie des étoiles, le prêtre chaldéen retrouve la route du monde spirituel. Lors de son initiation, lorsqu'il acquiert la perception de tous les êtres qui habitent les planètes et les astres, il élève son regard et se dit: ce que j'aperçois lorsque j'élève les yeux vers le ciel étoilé, c'est l'expression extérieure de ce que je puis percevoir grâce à la clairvoyance occulte, à l'initiation. Lorsque le prêtre initiateur me confère la grâce de la vision des dieux, je puis les contempler. Mais tout ce que je vois dans le monde extérieur n'est pas seulement une illusion, c'est le langage des dieux. Il éprouvait un sentiment analogue à celui que nous ressentons lorsque, après avoir été séparés longtemps d'un ami, nous recevons une lettre de lui et contemplons les signes écrits de sa main. Nous pensons à la main qui a formé ces signes et nous éprouvons les sentiments que, à travers eux, l'ami a exprimés. C'est un sentiment de ce genre que ressentait l'initié chaldéen ou égyptien qui avait accès au mystère sacré, pendant qu'il était dans le temple et contemplait de son regard spirituel les entités divines qui sont unies à notre terre. Lorsqu'il sortait ensuite et qu'il apercevait le monde des étoiles, il lui semblait voir comme une lettre des êtres spirituels. Il voyait écrit devant lui le langage des dieux. Les éclairs fulgurants, le tonnerre grondant, le vent de la tempête, tout était pour lui une manifestation des dieux. Les dieux se manifestaient à lui dans tout ce qu'il voyait extérieurement. Les sentiments qui nous animent à la vue de la lettre d'un ami, il les éprouvait en face du monde extérieur, des éléments, des plantes, des animaux, des montagnes, des nuages, des astres. Dans tout cela, il voyait et déchiffrait un langage divin. Les Égyptiens éprouvaient une entière confiance à l'égard des lois que l'homme pouvait trouver dans le monde physique et grâce auxquelles il lui est possible de dominer la matière. C'est ainsi que naquirent la géométrie, les mathématiques. Avec leur aide, l'homme pouvait maîtriser les éléments, parce qu'il avait confiance dans les découvertes que son esprit pouvait faire. Il croyait possible d'imprimer l'esprit dans la matière. C'est ainsi qu'il créa les pyramides, les temples et les sphinx. C'est là un pas énorme dans la conquête du plan physique qui s'effectue dans cette troisième civilisation. Par là, l'homme en était enfin arrivé à éprouver du respect, de l'admiration pour le monde physique. Mais de quel maître a-t-il eu besoin pour arriver jusque-là? Auparavant, l'homme, même l'initié, avait toujours eu des maîtres, pendant l'ancienne époque indienne par exemple. De quels maîtres les initiés ont-ils eu besoin? Pour être initié, il fallait que l'être humain soit amené artificiellement à revoir ce que l'homme percevait autrefois, lorsqu'il était doué d'une conscience clairvoyante assourdie. Il fallait que l'initié soit reconduit dans le monde spirituel, dans l'ancienne patrie spirituelle, afin de pouvoir transmettre aux autres les connaissances ainsi acquises. Pour cela, il avait besoin de guides. Les disciples des Rishis avaient des maîtres qui leur enseignaient ce qui se passait dans l'ancienne Lémurie, dans l'ancienne Atlantide, lorsque l'homme était encore clairvoyant. De même chez les Perses. Les choses changèrent pour les Chaldéens et surtout pour les Égyptiens. Certes, eux aussi avaient des instructeurs qui aidaient l'élève à développer ses forces de telle sorte qu'il devint capable de percevoir par clairvoyance le monde spirituel derrière le monde physique. C'étaient les initiateurs qui montraient ce qui se trouvait derrière le physique. Mais on dut employer en Égypte une toute autre méthode, appliquer une théorie nouvelle. Dans l'Inde ancienne, on se préoccupait peu de l'expression que l'esprit trouvait dans le monde physique, des liens qui unissaient les hommes aux dieux. En Égypte, il fallait que le néophyte non seulement voie les dieux par initiation, mais aussi qu'ils comprennent comment ceux-ci mouvaient leurs mains pour écrire leur langage stellaire, comment s'étaient édifiées toutes les formes physiques. Les anciens Égyptiens avaient des écoles semblables à celles des Indiens, mais en outre, ils apprenaient quelles correspondances unissent les forces spirituelles au monde physique. C'était là une discipline nouvelle. En Inde, on aurait simplement révélé le monde spirituel aux néophytes par la clairvoyance. En Égypte, on y ajoutait l'enseignement de ce qui, dans le monde physique, correspond aux actes de l'esprit. On montrait aux néophytes quel travail spirituel correspondait à chaque partie du corps physique. On enseignait par exemple comment le cœur correspond à un travail spirituel. Le fondateur de cette école, où l'on ne se contentait pas de révéler l'esprit, mais où l'on enseignait aussi comment il avait créé le physique, est le grand initiateur Hermès Trismégiste. C'est lui, le Thoth trois fois grand, qui, le premier, a montré l'ensemble du monde physique comme une écriture des dieux. On voit donc comment, pas à pas, des civilisations post-atlantéennes impriment à l'évolution de l'humanité leurs impulsions différentes. Hermès apparut aux Égyptiens comme un envoyé des dieux. Il leur apprit à déchiffrer dans le monde physique l'œuvre des dieux. Ainsi avons-nous brièvement caractérisé les trois civilisations post-atlantéennes. Les hommes avaient appris à apprécier la valeur du plan physique. Au cours de la quatrième période, la civilisation gréco-latine, l'homme va prendre contact toujours plus intimement avec le monde physique. Il arrive si loin dans cette voie qu'il n'y voit plus seulement les signes du langage divin, mais qu'il projette dans le monde des réalités objectives de son propre moi, de sa propre individualité spirituelle. Aucun art n'avait produit auparavant des œuvres comparables aux créations de l'art grec. C'est au cours de la quatrième civilisation que l'homme se projette hors de lui-même dans les créations de la sculpture, qu'il arrive à créer quelque chose comme son soi physique. À ce moment, la force intérieure, l'esprit qui réside en l'homme, s'extériorise sur le plan physique et pénètre dans la matière. L'exemple le plus pur de cette union entre l'esprit et la matière nous est donné dans le temple grec. Pour tous ceux à qui il est possible d'en avoir la vision rétrospective, le temple grec reste une œuvre admirable. L'architecture grecque est l'architecture type. Tout art atteint à un moment quelconque son point culminant. C'est en Grèce que l'architecture a trouvé le sien. La sculpture, la peinture connaîtront à leur tour également leur apogée. En dépit de la gigantesque pyramide, le temple grec est la création architecturale la plus admirable. Car que réalise-t-il? Tous ceux qui ont un sens artistique de l'espace, c'est-à-dire qui ressentent l'effet provoqué par le dialogue entre une ligne horizontale et une ligne verticale, en percevront un faible écho. Tout un monde de vérité cosmique s'anime dans l'âme, capable de ressentir comment la colonne porte ce qui la surmonte. Il faut pouvoir sentir que toutes ces lignes existaient déjà, invisibles, dans l'espace. L'artiste grec avait la vision clairvoyante de la colonne et ne faisait que combler avec de la matière ce tracé spirituel. Pour lui, l'espace était animé, parcouru de forces vivantes. Comment l'homme moderne pourrait-il ressentir à quel point était vivant ce sens de l'espace? Nous en trouvons des vestiges chez les peintres anciens. Dans certains tableaux, où des anges sont représentés planant dans l'espace, nous avons l'impression qu'ils se font réciproquement équilibre. Ce sens de l'espace a presque entièrement disparu aujourd'hui. Je n'ai rien à reprocher à l'art de la couleur chez un Böcklin, mais il faut bien dire qu'il est dépourvu de tout sens occulte de l'espace. L'être, qui se trouve au-dessus de Sapieta, par exemple, on ne sait si c'est un ange ou quoi que ce soit d'autre, doit immanquablement éveiller chez le spectateur l'impression qu'il peut tomber à tout instant sur le groupe qui est au-dessous de lui. Il faut insister sur cet aspect si l'on veut tenter d'évoquer en contraste quelque chose dont les hommes peuvent à peine se faire une idée aujourd'hui. Le sens de l'espace des Grecs qui est, nous y insistons expressément, de nature occulte. Un temple grec représentait quelque chose comme la création d'un espace qui se serait matérialisé lui-même selon ses propres lignes. La conséquence en est que les entités divines, connues du grec clairvoyant, et pour lesquels il avait édifié le temple, descendaient réellement dans ce temple, y trouvaient vraiment un foyer. Et c'est vrai. Pallas Athéna, Zeus, etc. étaient vraiment présents dans le temple. Ils avaient là leur corps matériel. Car comme ces entités ne pouvaient s'incarner que jusque dans un corps éthérique, le temple leur offrait dans le monde physique un véritable séjour. Il pouvait devenir pour elles un corps physique, dans lequel leur corps éthérique se sentait à son aise. Lorsqu'on comprend le temple grec, on s'aperçoit qu'il se distingue de façon importante de la cathédrale gothique. Ceci n'est pas une critique de l'architecture gothique, car la cathédrale est elle aussi, une splendide œuvre d'art. Lorsque l'on pénètre bien les choses, on peut se représenter que, même seul, éloigné de tout être humain, complètement réduit à lui-même, le temple est complet. Un temple grec est achevé, même quand aucun être humain n'y prie. Il n'est pas sans âme, il n'est pas vide, car le Dieu est en lui, le Dieu l'habite. Mais lorsque les croyants en prière ne la remplissent point, la cathédrale gothique n'est pas parfaite. Qui l'a comprise ne peut se la représenter isolée, vide, sans la foule des croyants qui y pénètrent avec leurs pensées. Et toutes les lignes, tous les ornements gothiques contribuent à renforcer cette impression qu'elle donne. Il n'y a point de Dieu, il n'y a point d'être spirituel dans la cathédrale gothique quand elle n'est pas pleine de croyants en prière. Ce n'est que quand la foule des fidèles la remplit que le divin vient l'habiter. Le temple grec n'est pas la maison des fidèles, il est fait pour servir d'habitation au Dieu lui-même. Il peut rester seul. Mais on ne se sentait abrité dans la cathédrale que lorsque la foule l'emplissait, lorsque la communauté en prière y était réunie, lorsque la lumière du soleil traversait les vitraux diaprés et que les couleurs se démultipliaient, et lorsque, comme cela arrivait souvent, le prêtre disait du haut de sa chaire: Comme la lumière se divise en couleurs nombreuses, ainsi la lumière spirituelle, la force divine, se répartit dans les âmes et les forces du monde physique. Le prédicateur disait souvent de telles choses. Quand se réunissaient ainsi contemplation et expérience spirituelle, la cathédrale était une totalité. Non seulement l'art architectural des temples, mais encore tous les arts sont arrivés chez les Grecs à cette même perfection. Le marbre de leurs statues a pris l'apparence de la vie. Le grec a exprimé dans la matière physique ce qui vivait en son esprit. Cette culture a vu s'accomplir l'union de l'esprit avec le physique. Les Romains vont avancer encore dans la conquête du plan physique. Le grec avait eu la faculté d'incorporer à son œuvre d'art une dimension d'âme et d'esprit, mais il est encore intérieurement inséparable d'un tout, de sa ville, de la polis, polis. Il n'a pas encore le sentiment de sa personnalité. Il en était de même dans les civilisations précédentes. L'Égyptien n'a pas conscience de lui-même en tant qu'individu, mais en tant que membre d'un peuple. De même en Grèce, l'homme n'accorde pas de valeur au fait de se ressentir comme un être humain. Sa plus grande fierté, c'est d'être un Spartiate ou un Athénien. Le désir d'être une personnalité, d'être soi-même quelqu'un dans le monde, nous le rencontrons pour la première fois chez les Romains. Les premiers, ils sentent que l'être isolé, l'individu, a une valeur propre. Le Romain a trouvé le concept de citoyen. Et c'est pourquoi il a créé la jurisprudence, le droit, que l'on a pu appeler à juste titre une invention romaine. Seuls certains juristes modernes, qui n'ont aucun sens de ces choses, ont eu le mauvais goût de dire qu'il y avait déjà eu auparavant un droit de ce genre. C'est un non-sens que de parler d'inventeur du droit en Orient, comme le serait par exemple Hammurabi. Avant les Romains, il n'y avait pas de loi juridique, il n'y avait que des lois divines. Si l'on voulait être objectif envers cette prétendue science juridique moderne, il faudrait employer des termes durs, très durs. Toutes les critiques habituelles sont bien trop indulgentes. C'est dans l'ancienne Rome seulement qu'on a eu le sentiment véritable de ce qu'est un citoyen. À ce moment, l'homme a incorporé l'esprit dans le monde physique jusqu'au niveau de sa propre individualité. C'est dans l'ancienne Rome qu'on voit apparaître pour la première fois le testament. La volonté de l'individu devient si forte qu'elle est capable de déterminer même par-delà la mort comment on disposera de ses biens. Désormais, c'est l'être personnel, l'individu, qui est déterminant. C'est là le signe que l'homme a fait descendre l'esprit sur le plan physique dans sa propre individualité. Le point le plus bas de l'évolution est ainsi atteint. L'Indien planait encore dans les hauteurs spirituelles, au point le plus élevé de l'évolution. Avec la seconde civilisation, l'homme a commencé à descendre. Avec la troisième, il est descendu plus bas encore. Avec la quatrième, il est parvenu tout entier sur le plan physique dans la matière. Il y eut alors un moment où l'homme devait choisir. Ou bien il pouvait continuer à descendre, ou bien il lui fallait acquérir, à ce point le plus bas de l'évolution où il était parvenu, la possibilité de se retourner, de remonter, de retrouver le chemin des mondes spirituels. Mais pour cela, il fallait qu'une impulsion spirituelle vienne sur le plan physique, donner à l'homme l'élan puissant qui lui permettrait de remonter dans le monde spirituel. Cet élan, c'est l'apparition de Jésus-Christ sur la terre qui nous l'a apporté. Le divin Christ a dû descendre vers les hommes, accepter d'apparaître physiquement dans le monde physique. Au moment où l'homme se trouve tout entier dans le monde physique, il faut que le Dieu s'abaisse jusque-là pour l'aider à retrouver le chemin du monde spirituel. Cela n'aurait pu se faire auparavant. Aujourd'hui, nous avons suivi l'évolution des civilisations post-atlantéennes jusqu'au point le plus bas de la courbe. Nous venons d'esquisser comment l'impulsion spirituelle qui devait la redresser nous a été donnée par le Christ en ce point le plus bas. Il faut maintenant que l'homme retourne à l'esprit, pénétré, spiritualisé par le principe du Christ. Nous allons voir dans ce qui suit comment la civilisation égyptienne réapparaît dans une époque comme la nôtre, mais pénétrée maintenant du principe du Christ.